48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous, bienvenue pour le 33e mag de 48 FM, un mag un peu spécial aujourd'hui car c'est un spécial éducation, où on va parler refondation de l'école, un peu cette nouvelle loi Peillon pour battre en friche les idées reçues, il y en a beaucoup sur cette loi en ce moment. Autour de la table bien sûr Nico qui est là avec moi, bonjour Nico.
Salut.
Également Madame Caroline Lombardi-Pasquier, la directrice académique des services de l'éducation nationale, bonjour.
Bonjour.
François Gaudry, maire et conseiller général de Saint-Enémy.
Bonjour.
Voilà un élu pour parler de cette loi. Cécile Bertin, qui est directrice de l'école publique primaire de Badaroux. Bonjour.
Bonjour.
Et également Martine Thomas, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la DDCSPP. Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, on est parti pour parler éducation pendant une heure, loi de refondation de l'école avec tout ce que ça va inclure.
Vous allez voir, ça va être passionnant.
Ça va être passionnant. On espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Une loi qui est partie d'un constat, un constat qu'on peut parler d'échec. Hein. Pour ça, on s'est basé, du moins le gouvernement, sur certaines statistiques, suivant le classement OCDE des systèmes éducatifs, qui sort d'ailleurs tous les 3 ans, le dernier en date étant de 2009. On peut noter que la France enregistre un résultat global moyen et le retard de l'Europe sur l'Asie s'accroît. Alors c'est une étude qui a été menée auprès de 470 000 élèves dans 65 pays, qui s'intitule le Programme international de suivi des acquis, le PISA. Alors il évalue les capacités des jeunes âgés de 15 ans à utiliser leurs connaissances et compétences pour relever les défis du monde réel. C'est une enquête qui s'est intéressée à 3 domaines clés. La compréhension de l'écrit, les mathématiques et la culture scientifique. Alors, pour exemple, les élèves ont notamment eu à répondre à des questions à choix multiples sur le sens d'un texte concernant l'éventuel danger des téléphones mobiles ou sur une pièce de théâtre. Et à travers les résultats des élèves, c'est la performance des systèmes scolaires que l'on compare. Alors, les premières marches du podium sont principalement occupées par les pays asiatiques. Donc ça, c'est intéressant à voir que la Chine, Singapour, la Corée et le Japon connaissent de très bonnes performances au même titre que le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Les résultats de la France se situent quant à eux dans la moyenne, avec pour exemple 496 points en lecture, elle se place au 21e rang de l'ensemble des pays ayant pris part à l'étude. Ces résultats en mathématiques, 22e, sont particulièrement décevants car les élèves ont vu leurs résultats chuter de 14 points entre 2003 et 2009. Auparavant classé parmi les pays les plus performants, la France descend ainsi dans le groupe des moyens. Enfin, suivant cette étude, si la France se maintient à une place honorable, c'est grâce à son élite qui reste forte et grossit légèrement, alors que parallèlement, le nombre de ses élèves en échec scolaire a augmenté entre 2000 et 2009. Noté dans ce rapport, le système français est l'un des plus inégalitaires, il fonctionne bien pour les meilleurs mais oublie les plus faibles. Et autre indication négative, les différences de milieu social expliquent en moyenne 22% de la variation de performance des élèves contre 28% pour la France. En France, l'impact du niveau socio-économique des élèves sur les résultats scolaires est fort. Donc on peut partir de ce constat, du moins c'est ce qu'a fait le gouvernement et Vincent Peillon, pour se dire voilà, la France est... Le système éducatif est peut-être à revoir, il est peut-être inégalitaire. Madame Lombardi-Pasquier, on est parti de ce constat donc pour la refondation de l'école. Expliquez-nous un peu l'historique. On est parti sur une refondation et donc un ensemble de réunions entre partenaires et éducation nationale pour réfléchir à ce que pourrait être l'éducation de demain, c'est ça?
Oui, tout à fait. Comme vous le disiez... Très justement, notre ministre a pointé surtout des écarts qui se creusaient en France. Alors, la France, dans ses classements européens et mondiaux, voit en effet son rang diminuer. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous étions auparavant des très très bons élèves, mais en effet, nous avons certainement été rattrapés par des pays qui ont su faire évoluer leur système éducatif, peut-être aussi parce que, historiquement, le poids du classicisme de nos études en France... continue à empêcher la progression du système et non pas forcément la progression des élèves et des enseignants, tandis que des systèmes plus nouveaux dans d'autres pays ont su certainement partir d'une façon plus dynamique et réfléchir d'une façon différente à surtout comment permettre à tous les élèves d'une façon plus équitable d'améliorer leur performance. Et ce que vous disiez, en effet, fort justement, c'est que malheureusement, les statistiques sont cruelles. Elles nous montrent que notre système éducatif augmente les écarts entre les classes sociales, les écarts de réussite. Et bien entendu, notre ministre a considéré que ce n'était pas tolérable et qu'il fallait que l'école soit plus juste, soit plus équitable et permette la réussite de tous les élèves et que ce soit l'accompagnement des élèves les plus en difficulté qui soit la clé de voûte aussi de notre action quotidienne.
Cette éducation n'est plus adaptée à notre société actuelle. Elle était peut-être auparavant et l'évolution fait qu'il faut changer la donne.
Parce qu'on dit que, actuellement, sur les rapports qu'on a pu lire, 140 000 enfants aujourd'hui, jeunes, sortent sans qualification et sans diplôme et se retrouvent, pas dans la rue, mais quelque part un petit peu démunis par rapport au marché du travail, par rapport à l'emploi.
Oui, d'autant que la situation économique, bien entendu, s'est dégradée, que nous savons que depuis toujours, les diplômes et les études protègent mieux du chômage, permettent plus facilement d'accéder à l'emploi ou permettent d'avoir une période d'attente pour l'accès à l'emploi moins longue. Plus un jeune est diplômé, plutôt, parce que dans ces cas-là, ça n'est plus un élève, plus il accédera vite à un travail et plus également il saura se reconvertir tout au long de sa vie professionnelle. Alors, de ce point de vue-là, les jeunes sortant sans solution du système éducatif, ça n'est pas nouveau. Cela fait au moins une trentaine d'années que ce phénomène est pointé. Il y a eu vraiment un travail de fond et qui continue toujours par rapport à la prévention du décrochage scolaire et par rapport également au suivi de ces jeunes, puisque maintenant il y a des nouveaux dispositifs qui se mettent en place dans le cadre des réseaux d'établissements pour pouvoir proposer une deuxième formation à ces jeunes en lien avec bien entendu les missions locales et les autres dispositifs d'aide à l'insertion. Donc, de ce point de vue-là, la question des jeunes décrocheurs, à un moment, on les a chiffrés à 60 000. Actuellement, c'est 120 000. Je pense que ce sont quand même, c'est l'affinement des statistiques qui explique plus l'augmentation du nombre de ces jeunes que le système éducatif actuel.
D'accord, mais comment on peut faire pour résorber ça ? Parce que le principe de cette loi de Vincent Peillon, c'est quand même de prendre globalement le projet de l'école et en fait du devenir d'un petit homme qu'on prend à l'école maternelle et de réaffirmer l'école maternelle comme un élément essentiel, ce qu'ont pas fait beaucoup de pays européens d'ailleurs, et d'accompagner cet enfant jusqu'à sa sortie de la scolarité. Donc c'est bien de reprendre globalement le projet et de se dire, bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, tout à fait. Donc, bon, d'une part, ce qu'a voulu notre ministre, c'est de pouvoir faire en sorte que notre éducation nationale bénéficie de création d'emplois. Donc 60 000 créations d'emplois sont programmées sur les 5 ans à venir. D'autre part, en effet, vous le pointiez fort justement, il a pointé le rôle important de l'école maternelle, notamment pour pallier à ces écarts de réussite entre les classes sociales, puisque ces écarts de réussite se construisent malheureusement très tôt. Donc le rôle de l'école maternelle pour apprendre aux élèves à vivre ensemble et pour leur apprendre le sens des apprentissages a été réaffirmé. Et surtout dans les secteurs soit ruraux isolés, soit d'éducation prioritaire, parce que ce que nous n'avons pas évoqué, bon, nous sommes en Lozère, donc nous n'avons pas de secteur d'éducation prioritaire, mais dans tous les départements qui ont ce type de dispositif, les écarts se sont creusés entre les élèves de l'éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire. Et donc, de ce point de vue-là, vous savez qu'une partie des moyens supplémentaires donnés par le gouvernement va servir à pouvoir augmenter l'accueil des élèves de moins de 3 ans en maternelle.
Monsieur Gaudry, je vous ai vu faire la moue, vous voulez intervenir sur...
Non, c'était déjà dans le préliminaire que vous aviez fait. C'est vrai que effectivement, ça a diminué. Entre 2003 et 2009, on a vu quand même que notre réussite à l'école et que nos enfants réussissaient moins à l'école. Mais bon, ceci explique cela aussi. C'est qu'on a eu il y a eu un dégoût pour l'école, je veux dire presque de nos ministres précédents quand même. On a supprimé des postes, on a fait absolument de. On l'a voulu, l'élitisme. On n'a pas mis les moyens qu'il fallait, au contraire, on a fallu se retrouver dans un système rentable avec un nombre d'élèves toujours plus. Donc il n'y a pas de miracle au niveau de l'éducation. Et je pense que les enseignants, ils en sont tous conscients. Ils savent très bien qu'ils peuvent mieux s'occuper de classes de moins de 20 élèves que de classes de 30 élèves. Et qu'ils peuvent, à partir de ce moment-là, si vous voulez, pallier aux difficultés des uns ou des autres des enfants. Donc c'est pas... Alors, ce que veut faire Payon ? Bon, ben, c'est bien, notre ministre, qu'il... Moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses hein, au départ. Hein. D'abord, se dire on va réformer l'école. C'est pas mal. Alors, il faut faire attention, parce que tous les ministres de l'Éducation nationale qui viennent les uns derrière les autres, ils veulent toujours réformer, ils veulent toujours mettre une image de marque derrière leur passage au ministère de l'Éducation nationale. Mais il y a quand même des choses positives. C'est vrai que la création d'emplois, qui va... rebrousse-poil par rapport à ce que faisait...
Oui, dans le principe, c'est de dire plus de maîtres que de classes.
Plus de maîtres que de classes. Je veux dire qu'on sait que, Madame l'inspectrice l'a très bien dit, on sait qu'il y a besoin, on a des enfants qui n'ont pas tous les mêmes atouts dans leur vie quand ils rentrent à l'école. C'est vrai que le premier nivellement par rapport à ces difficultés, c'est l'école maternelle. Et c'est bien qu'on mette le paquet sur l'école maternelle, parce que c'est là où on commence à prendre les enfants dans
les apprentissages. Peut-être une intervention de la directrice de Badarous sur cette idée justement de la maternelle. Est-ce qu'elle vous semble importante ?
Ah ben, tout à fait. Alors nous, on a la chance quand même en Lozère où on n'a pas de problème pour accueillir les enfants. Et donc les enfants arrivent dès 2 ans dans les classes. Mais c'est sûr que dès 2 ans, il nous arrive de repérer déjà des enfants qui pourraient avoir des difficultés. Et le nombre qu'on a, nous, dans nos classes en Lozère et le fait qu'on les accueille à deux ans nous permet justement de réagir plus vite que d'attendre qu'ils arrivent à plus de 3 ans avec déjà un passif un peu plus lourd, quoi.
Et est-ce que la réponse, l'adéquation est bonne aussi ? Parce qu'on voit souvent, pas au niveau du primaire, mais au collège, des orientations qui sont proposées aux élèves un peu moins bons, qui ne correspondent pas au final à ce que la personne fera plus tard. Est-ce que les réponses sont en adéquation avec le problème ? Vous, en tant que directrice d'école, est-ce que vous avez été confrontée peut-être à des cas d'élèves un peu difficiles où on s'est dit « bon, mais il faut l'envoyer dans le manuel, ça serait mieux pour lui », au final, c'est pas ce qui s'est forcément passé, et tant
primaire,
mieux pour l'enfant.
Ça, on peut difficilement le dire dès le CM2. Nous, après, les orientations qu'on fait, c'est plus vers la SECPA. Hein, et donc, et en plus...
Donc la SECPA, c'est...
Donc c'est au collège une classe adaptée pour les enfants en difficulté et D'accord. qui va les orienter au niveau professionnel, oui.
Et vous avez les moyens de répondre quand vous trouvez un enfant qui a des difficultés ? Est-ce que les moyens sont là ? Parce qu'on parle
Alors,
justement de
moyens.
Alors, ils
ont été réduits par les gouvernements précédents, comme monsieur l'a dit, notamment avec la suppression des RAZ et du nombre... Pas complètement des RAZ, mais ouais. Des psychologues, des intervenants, ça, on l'a fortement senti dans nos écoles. Et là aussi, il faudrait qu'il y ait un effort au-delà de la maternelle, aussi dans ce sens-là, parce que parfois, c'est vrai qu'on est démunis. Et malgré que nous soyons en petit nombre dans les classes et avec des classes à double niveau qui aident aussi à la gestion des capacités des enfants.
Alors peut-être que dans le programme de refondation de l'école, il y a une partie qui semble importante aussi, et vous le signalez en parlant des enseignants spécialisés, c'est peut-être la formation des enseignants. Alors peut-être Madame la directrice nous en parler un petit peu plus, puisque je crois que dans ce programme de refondation de l'école, ce qui est important aussi, c'est de redéfinir et de repositionner au sein de l'école le rôle de l'enseignant, à qui on a peut-être donné un peu trop de tâches aujourd'hui, avec des programmes qu'on connaît qui sont très très lourds, sur une durée qui est de 144 jours. Contrairement à d'autres pays européens, on est déjà à 184 jours. Donc cette refondation, c'est bien aussi de tenir compte à la fois du rythme de l'enfant, peut-être de la formation des enseignants, peut-être un peu plus spécifique, qui n'est pas forcément basée sur un niveau de qualification d'entrée qui serait un master, master 1 ou master 2, mais plus une formation professionnelle adaptée et une revalorisation aussi de ce métier, quoi. Madame la directrice ?
Oui, tout à fait, puisque, comme vous le disiez, notre ministre veut également refonder la formation des enseignants, surtout leur formation initiale, puisque des écoles supérieures de préparation au métier du professorat et de l'éducation vont être mises en place à partir de la rentrée scolaire prochaine. Et donc, des jeunes qui seront admissibles au concours de professeurs des écoles, si nous parlons des écoles, puisque le même dispositif existera également, bien entendu, pour le second degré, donc en juillet prochain, auront un an de formation avant de passer la partie admission définitive du concours et ensuite d'être stagiaire. Donc nous revenons à un dispositif de formation des enseignants, mais assez rénové, hein, une formation qui sera en alternance également, puisque nous leur proposerons un contrat donc d'emploi avec l'État où ils pourront avoir un service d'un tiers de temps des enseignants ordinaires, donc d'un tiers de 24 heures, mais rémunérés à mi-temps. Cela leur permettra, ils seront accompagnés par des tuteurs, et cela leur permettra de commencer à apprendre le métier. Ils seront en formation dans ces écoles supérieures des métiers du professorat et pourront bénéficier là de cours didactiques, pédagogiques et également, bien entendu, d'une analyse du début de la pratique qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Donc, alors que le gouvernement précédent, en effet, avait fermé cette partie de formation antérieure à la prise de fonction depuis 2008. Nous n'avions plus de formation des enseignants avant leur réussite au concours. De la même façon, bon, la formation continue des enseignants va être fortement rénovée avec, d'une part, une formation...
Donc la formation continue, c'est ce que vous appelez le plan départemental de formation ?
Pas que le plan départemental de formation. Le plan départemental de formation souvent comprend des formations ciblées pour tel ou tel public, c'est-à-dire les nouveaux directeurs d'école, les formations, ceux qui vont commencer une nouvelle fonction, ou des spécialisations, ou des formations en art plastique, ou en langue vivante, oui, ouais. Tout à fait. Bon, non, ça correspond également aux animations, ce qu'actuellement nous appelons les animations pédagogiques. Je dis bien actuellement, puisque avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et le fait que ces animations pédagogique ici se passait souvent le mercredi matin, je dis ici parce que dans d'autres départements ça pouvait aussi se passer en soirée, il va y avoir une forte refonte hein, de ces animations pédagogiques et donc cette formation continue se passera au moins à moitié à distance. Donc nous sommes en train de travailler également à la constitution de modules de formation pour les enseignants sur différents thèmes, à la fois en ce que nous appelons en présentiel, donc on pourrait dire en formation habituelle, mais également en formation à distance. Là, aujourd'hui, dans le département, j'y participe ce matin et cet après-midi, il y a une formation d'une partie des équipes de circonscription avec les IEN sur ce que nous appelons les TIS et le projet d'espace numérique de travail premier degré. Donc, en effet, un ministre qui a voulu retravailler sur la formation des enseignants et une partie des 60 000 postes et, donc sur 5 ans est consacrée à cette remise en place d'une formation initiale des enseignants, qui veut faire en sorte que l'école soit plus juste pour tous et permette la réussite de chacun. Donc, de ce point de vue-là, un accent sur les maternelles. Vous avez évoqué plus de maîtres que de classes, donc dans certains environnements en grande difficulté, affecter des enseignants supplémentaires sur projet dans des écoles pour permettre un travail transversal.
Un accompagnement un peu plus spécifique oui. Sur certains enfants.
Voilà, bon, comme il faut voir que dans le département, nous serons à la rentrée prochaine à moins de 15 élèves par classe. Donc, bon, le dispositif plus de maîtres que de classes connaît très des limites.
Sur notre département, il est...
Bon, donc on ne peut pas tout avoir. Hein, pour pouvoir mettre ça en place, il aurait fallu fermer des classes. Non, mais c'est clair, hein, on peut pas.
En même temps, je vous coupe, mais en même temps, il s'avère que sur la Lozère... Ces conditions d'accueil dont vous parlez, madame la directrice de l'école de Badaron, fait qu'on a d'excellents résultats par rapport à d'autres départements.
Ça, donc, je suis complètement
d'accord.
Ça prouve
bien cette adéquation entre ce qui est pallié entre le nombre d'enfants.
Alors, c'est ce qui est retenu au niveau national. Puisque nous sommes le département le plus privilégié hein, en ce qui concerne le taux d'encadrement, mais les résultats sont reconnus. Bon, maintenant, nous n'aurons plus de remontée des évaluations du premier degré, mais jusqu'à il y a deux ans, nous voyons que ce soit en français ou en mathématiques, le département avait d'excellents résultats. Avec, malgré tout, en Lozère comme ailleurs en France, un décalage entre le français et les mathématiques. En effet, tout à l'heure, vous évoquiez cela. Nous avons un décalage en France sur ces résultats en mathématiques. Et je pense que le ministre voudra, dans la formation des enseignants, mettre l'accent sur les formations en mathématiques et en sciences. Mais ça, c'est une question réellement nationale. Je crois qu'il va falloir que sur les maquettes des masters et même des licences pour les jeunes qui veulent se préparer au métier de professorat, il y a un accent mis sur les mathématiques et les sciences et de montrer qu'elles sont accessibles et que ça n'est pas élitiste. Je crois qu'en effet, bon, on a évoqué la question de l'élitisme, mais l'élitisme de l'école ne date pas de 2008,
du gouvernement.
Il ne faut pas oublier que notre éducation a été fondée sur le modèle du lycée napoléonien, qui était élitiste par essence. Alors, il y a eu une forte démocratisation suite à la loi Abi. Ensuite, la loi d'orientation mise en place par Lionel Jospin avait mis l'élève au centre du milieu du système éducatif et a voulu mieux accompagner tous les élèves. Bon, cependant, malheureusement, peut-être parce que d'autres pays ont fait d'autres efforts, ont choisi d'autres voies qui étaient peut-être mieux adaptées à leur public, nous avons vu un écart de performance en notre défaveur. Ça, on ne peut pas le nier.
Oui, parce qu'on voit les pays qui se placent en tête, les pays asiatiques, c'est souvent de l'éducation... pas forcé, mais c'est énormément de travail, très peu de temps de repos, etc. Je ne sais pas si c'est le modèle qu'on va avoir. Pour
déjà, ils sont sur 180, plus de 180 jours d'enseignement, mais avec des périodes, on va dire, d'enseignement éducatif et pédagogique beaucoup plus courtes. C'est-à-dire, nous, on est sur des journées qui sont très, très longues. Aujourd'hui, donc, ça va être la deuxième partie de notre émission sur les rythmes scolaires. Je crois que tout le monde s'accorde depuis 77 avec Montagnier, avec des experts comme ça, disent depuis très longtemps que le rythme du Mans n'est pas du tout adapté au rythme de vie des enfants, mais des adultes aussi. C'est vrai aussi dans le travail, quoi. Et que peut-être aujourd'hui, au moins de recoller en partie à ça, ça peut résoudre une partie de ce décrochage, en tout cas de cette perte d'information, d'attention et de compréhension des enfants.
Monsieur Gaudry ?
Oui, non, mais sur le Montagnier a raison. On ne veut pas, sauf qu'on n'est pas sur un territoire, on n'est pas du tout dans les mêmes positionnements. Je veux dire, on ne peut pas concevoir par rapport au rythme de l'enfant. Il n'y a pas que l'école dans le rythme de l'enfant.
Oui,
ça, un jour, faudra quand même se mettre ça dans la tête. Et alors, je suis d'accord qu'actuellement, effectivement, les journées sont peut-être
sont
surchargés,
très longues, ouais.
Mais bon, sont surchargés. Mais là, on parle que de l'école. Mais si vous prenez après ce qui se passe avant l'école, ce qui se passe
le
après l'école,
parce que
les rythmes de vie aussi des gens ont changé. Je veux dire, souvent, il y a deux parents qui travaillent. Donc, c'est du lever le matin très tôt. C'est du transport, nous, dans notre département, qui c'est pas anodin. Donc, tout ça, moi, je comprends pas. Ça va être peut-être la deuxième partie de notre débat, mais je ne comprends pas qu'une loi comme celle-là sur les rythmes scolaires ne soit pas déclinée au niveau départemental. On a une directrice de l'éducation nationale qui est tout à fait capable, au niveau de son département, de gérer ces 24 heures. On n'a pas besoin forcément d'une loi CAD au niveau national. Les problèmes qui sont en Seine-Saint-Denis sur le rythme scolaire des enfants ou les pas et au fin fond de la Margerie n'est pas du tout
le
même.
Oui, mais là tu reposes la question de la décentralisation et puis
tout à fait.
D'une
mais
certaine
tout à
façon
fait.
Sur l'éducation
sauf que
nationale.
Sur la décentralisation sur le rythme, ok, ça on peut l'appliquer, pas sur le contenu. Pas sur le contenu, je pense qu'on doit avoir un socle sur l'éducation nationale.
Voilà, donc pour toi, c'est qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qui est commun, parce qu'on parle d'un socle commun dans l'éducation nationale. Et que
le socle commun, le rythme ne fait pas forcément partie du socle commun. Voilà. Mais c'est peut-être une différence que j'ai, mais avec
oui, d'opinion.
Mais qui est aussi qui est partagée quand même avec nombre d'élus ruraux.
Non, mais sur 48 FM, on peut avoir des opinions très très différentes. Justement, on est
sûr,
là pour un débat. Et puis je pense que les élus aujourd'hui qui sont vraiment les gestionnaires des établissements publics du premier degré sont à même d'apporter une réflexion. Je pense que la loi de ce côté-là et l'intention du ministre, en tout cas, on peut lui garder au moins celle-là, c'est d'associer les partenaires autour de l'école, dans le projet éducatif territorial, on peut dire aussi qu'il fait la part belle aux communes et aux dirigeants des communes et aux élus. Après, qu'est-ce qu'il leur laisse dedans comme choix ? Effectivement, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, sur le fond, pas sur forcément la forme et les moyens, mais en tout cas sur le fond, il y a une ouverture et une vraie réflexion qui est donnée. Est-ce que ça, on peut le saluer et qu'est-ce qui se passerait au niveau législatif si chaque ville faisait un petit peu ce qu'elle voulait, quoi, ou chaque département
Et je pense que l'attachement, alors je suis d'accord avec vous, Monsieur Gaudry, réellement, bon, les Français sont très attachés à ce que le contenu soit commun. Et en effet, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture sera bien partagé partout en France, enfin partout sur le territoire métropolitain et d'outre-mer. Bon, cependant, ils sont aussi attachés à avoir de la lisibilité sur l'organisation. Et je crois que ça, je sais bien, parce que en effet, tout à l'heure, l'un de vous deux, je ne sais plus si c'est M. Terol ou M. Trottoin, vous évoquiez la concertation qui avait eu lieu en amont de la proposition de loi de refondation de l'école. Et bien entendu, les territoires, les élus des différentes collectivités y ont été associés. Et je me souviens avoir participé à un groupe de travail au niveau national, où ils avaient pointé les difficultés des territoires ruraux par rapport aux déplacements, par rapport également au financement. Bon, en ce qui concerne le financement, je pense que bon, dans l'acte 3 de la décentralisation, certainement des choses seront peut-être un peu plus claires là. Mais en ce qui concerne les déplacements et la spécificité des territoires ruraux, on ne peut pas opposer la région parisienne à nos territoires ruraux. En région parisienne, des enfants qui très tôt prennent des transports en commun pour aller dans une école ou dans un établissement à l'autre bout pour telle ou telle raison de choix des familles, ça existe.
Ils ont
les mêmes problématiques. Alors, moi, je pense, c'est parce que nous nous focalisons sur l'idée, on passe à 4 jours vers 4 jours et demi, et ça fait un déplacement supplémentaire. Bon, d'accord, sauf que les autres journées, les 4 jours dits pleins, seront nettement différentes. Le contenu sera différent. C'est ça l'objectif de cette réforme. C'est que les enfants soient dans de meilleures conditions d'apprentissage et qu'on puisse mettre en place des moments d'apprentissage, des moments d'ouverture à différentes activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sportives, et que ensuite, ils puissent éventuellement reprendre des moments d'apprentissage et que ces 4 journées pleines soient nettement moins fatigantes chacune pour l'enfant, ce qui fait que la 9e demi-journée ne serait pas forcément supplémentaire dans ce temps global. Alors, je suis d'accord avec vous, Monsieur Trottoin, vous disiez bien, il y a trop de jours d'enseignement en France, quelque part, c'est bien ça. Nous y sommes très attachés au nombre de journées d'enseignement, au nombre d'heures que nous devons aux élèves, et nous faisons partie des pays qui donnons le plus. Bon, est-ce que c'est en effet... Ce sont bien des moments d'apprentissage ou est-ce que ce sont des moments de gavage, entre guillemets ? C'est la question que régulièrement les enseignants se posent et elles mettent en place des méthodes pour pouvoir justement travailler en groupe, surtout par exemple en Lozère, où non seulement ce serait des groupes de niveau à l'intérieur de la même classe, mais en même temps des groupes de besoins.
Justement, on va parler de ce temps de travail, de cette réforme des rythmes scolaires. Après une petite pause musicale, un morceau de samba et on revient de suite après.
Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. se se manca. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se manca. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Porque falador, falador,
FM Le Mag.
Donc nous revoilà sur ce spécial éducation 48 FM Le Mag pour cette deuxième partie qui va concerner un peu plus spécifiquement les rythmes scolaires. Donc nous sommes toujours donc en présence de monsieur Gaudry, voilà, de madame la directrice, de madame Martine Thomas de la DDSSPP et puis
Cécile Bertin.
De Cécile Bertin, la directrice de l'école primaire de Badao, primaire publique. Oui, nous disions que la réforme des rythmes scolaires, en fait, c'est un constat qui a été fait par un certain nombre de médecins depuis très longtemps. On citait Montagnier, mais il y avait aussi Robert Debré, Guy Vermeil, François Testu. Tout le monde, bien sûr, s'accorde à dire que ce temps de l'enseignement n'est pas adapté au temps de vie de l'enfant. Alors, comme le soulignait François tout à l'heure, François Gaudry, c'est que le temps du rythme de l'enfant, c'est un temps qui est beaucoup plus long. Il démarre pour certains à 6h30, pour d'autres à 8h, et finissent pour certains donc à 16h30, mais pour d'autres à 18h30, voire un peu plus tard pour certains qui partent en garderie. Donc c'est bien de revenir aujourd'hui globalement sur une semaine, donc à 4 jours et demi, avec une priorité sur le mercredi matin scolarisé plus que sur le samedi matin. Après, ce sera laissé à, voilà, suivant les collectivités, le choix des collectivités, de leur organisation dans le cadre de leur projet éducatif territorial. Et puis aussi avoir une approche globale de l'enfant. Donc, dans cette deuxième partie, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on associe aujourd'hui l'école, enfin comment l'école s'associe à d'autres partenaires qui ne sont pas forcément dans l'école ou au moment du temps scolaire, mais qui peuvent intervenir pour faire soit un complément, soit pour amener une plus-value dans le cadre des projets d'école, dans le cadre de ce qu'on peut faire en accompagnement. Puisque le principe aussi qui a été un petit peu retenu, c'est que c'est vrai que l'iniquité se retrouve plus aujourd'hui dans le hors-temps scolaire que dans le temps scolaire. Autant les enfants, quand ils sont scolarisés dans le cadre de leur journée dans le cadre scolaire et pas dans le temps méridien ou dans le temps périscolaire, sont tous à peu près à la même enseigne, assis sur une table avec les mêmes outils face à un même professeur. Après, ils n'ont pas forcément les mêmes compétences ni les mêmes niveaux, mais en tout cas, ils ont cet accès-là qui leur est offert par l'école publique, laïque et libre. Et par contre, dans le hors-temps scolaire, il y a ceux qui, à 4h30, se retrouvent avec des parents qui sont présents à la maison, ce qui est quand même, François, tu soulignais, de moins en moins le cas, puisque les deux parents travaillent. Avant, il y a peut-être une quinzaine d'années, ce n'était pas tout à fait le cas. Il y avait peut-être maman ou la mamie qui était là pour accueillir et faire les devoirs. Il y a ceux qui ont la possibilité aussi de faire des activités périscolaires dans des clubs. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas tout ça et qui font qu'aujourd'hui, cette inéquité face à ça comble un petit peu le fossé et qui peut être aussi une l'explication de cet échec scolaire. Donc, dans cette deuxième partie, peut-être un petit peu alors prendre l'exemple de cet aménagement qui va être proposé notamment à l'école de Badarou.
Alors oui, juste un petit mot sur l'équité. c'est vrai qu'au sein de l'école, normalement, pendant le temps scolaire, il y a équité partout. Mais dans la réalité, il y a déjà des inégalités. Parce que quand on travaille, par exemple, amende avec toutes les structures, toutes les infrastructures sportives, ou quand on a accès au centre-ville plus rapidement, ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'on est au Blimard et qu'il faut payer les transports pour pouvoir venir voir un film ou des scènes de théâtre ou des choses comme ça. Donc,
c'est sûr que les dotations collectivités, des collectivités par enfant varient effectivement en fonction...
Donc, déjà, par moment, il y a quand même pas une équité. Cette inégalité, elle existe du fait de la diversité des communes et de leur éloignement de centres importants ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie de la réduire autant que possible.
Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau européen, par exemple, la France est un pays qui se situe quand même dans la fourchette basse pour les moyens qu'on met à disposition par enfant. C'est-à-dire on est 30% inférieur à la moyenne de l'Europe, quoi. Donc on a encore un petit peu des moyens à trouver pour l'école de la République.
Alors nous, par rapport à la réforme des rythmes scolaires, notre municipalité a décidé donc de démarrer dès 2013 cette réforme en accord avec l'équipe pédagogique. Donc, nous avons pris le taureau par les cornes et on a dit qu'on y allait. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre au travail tout de suite parce que la rentrée 2013...
C'est demain.
C'est bientôt, voilà, c'est demain. Donc, dès le mois de février où la décision a été prise, on s'y est attelé et s'est posé la question de savoir comment on allait les mettre en place. Et ce qu'on a tout de suite voulu, c'est avoir l'avis du plus grand nombre de parents. C'est-à-dire pas juste se contenter d'avoir... Parce que vous savez, dans les écoles, on a des représentants de parents.
Hein, au conseil d'école.
Qui siègent au conseil d'école. Alors ça, c'est très bien. Mais on voulait quand même avoir directement l'avis de tous les parents. Parce que souvent, il y a des parents qui n'osent pas s'exprimer ou qui... Voilà, dire ce qu'ils pensent. Et donc, le biais qu'on a choisi, c'est d'établir un questionnaire en direction des parents. Alors, dans ce questionnaire, on s'est réunis, on a pris conseil auprès de conseillers pédagogiques, aussi, auprès de personnes un peu compétentes aussi.
Pour établir le questionnaire.
Voilà, pour établir le questionnaire. Et cibler les questions, parce que des questions trop ouvertes, ça peut paralyser des parents. Trop fermées, ben, on laisse pas. Donc, c'est assez difficile. Donc, on est parti déjà dans une première partie de faire un constat de notre école. C'est-à-dire comment elle fonctionne, notre école, quelle est la fréquentation de la garderie, quelle est la fréquentation de la cantine, et puis aussi que les parents nous disent les points positifs qu'ils trouvent à notre fonctionnement actuel et les points négatifs, parce que c'est vrai qu'en conseil d'école, régulièrement, il y a des fois des points qui sont mis sur la table et qu'on ne peut pas résoudre parce qu'ils sont trop pointus à régler sur le coup. Par exemple, nous, il y avait des parents qui demandaient à ce qu'il y ait une personne à 13h10 à l'école, parce que l'éloignement de Badarou, enfin même si ce n'est pas beaucoup, le temps qu'ils arrivent, 13h20, l'ouverture de l'école, c'était trop juste. Mais mettre une personne pour 10 minutes supplémentaires au niveau de la mairie, c'est délicat.
Oui, c'est surcoût.
Voilà. Alors que si ce problème, on le reprend, et c'est ce qui va être fait avec les rythmes scolaires, c'est-à-dire que on remet tout sur la table, on revoit le fonctionnement de l'école, et bien là, ce petit problème va pouvoir être résolu parce qu'on va embaucher une personne, mais pas juste pour 10 minutes. Elle va être aussi embauchée pour le temps périéducatif qui va intervenir à partir de 3h30 et pour le temps méridien aussi qui va être réaménagé. Ouais. Donc voilà, ça permet aussi de régler des soucis.
Donc pour vous, ça a été une façon de mettre à plat un petit peu le fonctionnement de l'école, d'avoir un retour global des parents, voilà. Et pas que des parents d'élèves, des représentants de parents d'élèves, et puis de reconsidérer votre fonctionnement. Donc voilà. C'est quand même un effort important pour des enseignants de se remettre en question comme ça ou pas.
Enfin, c'est un effort important.
Parce qu'on a des habitudes de travail.
Oui, on a des habitudes de travail. Facile. Oui, c'est vrai, on a des habitudes de travail. Mais voilà, à partir du moment où on parle de rythme scolaire et on sait qu'on ne pourra pas tout résoudre, eh ben, il faut penser aux enfants. Et même dans notre questionnaire, malgré que l'on sache que l'enfant a une baisse de vigilance après 13h30 jusqu'à à peu près 15h30, ouais. Les parents ont quand même choisi que les activités parééducatives se situent plus tôt en fin d'après-midi, c'est-à-dire de 15h30 à 16h30. Donc ce problème de vigilance, il reste. Donc il faut quand même y travailler malgré que le choix se porte après 15h30. Mais justement, de travailler le mercredi matin, ça va nous permettre aussi de changer. Mais ça demande, comme vous dites, un effort de remettre tout sur la table. C'est-à-dire que nos apprentissages, on ne va pas les placer aux mêmes endroits. Et que le mercredi matin ou un autre matin, ben, faudra...
Les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire mathématiques, lecture, écriture.
Là, actuellement, ben, souvent, on fait histoire, géographie, sciences, plutôt les après-midi. Mais ces matières-là ont aussi besoin de l'éveil des enfants. Et donc, souvent, elles pâtissent parce que, forcément, elles ne se situent pas forcément au bon endroit. Alors que là, on pourra les placer puisque nous aurons 3 heures, une matinée de 3 heures supplémentaires. Et à nous, après, de gérer au niveau de cette baisse de vigilance sur le créneau de 1h30 à 14h30, par exemple, de faire des activités de réinvestissement plutôt que de...
Donc tout ça, ça se... D'assimilation et de réinvestissement.
Martine Thomas, vous vouliez rebondir un peu sur ce temps de vigilance dont on vient de parler ?
Non, déjà, je voulais rebondir sur le fait qu'on parle de la réforme des rythmes. Des rythmes à l'école primaire et pas des rythmes scolaires, hein, puisque c'est bien ça la loi de départ. Donc, on voit bien que les guides donc édités par le ministère de l'Éducation nationale parlent de la réforme des rythmes à l'école primaire. Donc, ça comprend effectivement les temps d'enseignement fondamentaux et aussi les autres temps libérés sur lesquels, effectivement, plusieurs communes actuellement travaille pour la rentrée 2013. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est effectivement un fort travail de connexion entre les enseignants, les enseignants, les parents, et puis aussi les forces vives du territoire qu'il faut vraiment mettre en avant par rapport à ce qui sera proposé dans le cadre des activités périéducatives.
Oui, ça semble intéressant qu'en fait, on parle bien de coordination. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'un bon nombre d'enseignants a bien compris qu'aujourd'hui, l'école, ce n'est pas simplement ce qui se passe pendant les heures d'enseignement classique, que c'est un tout et que l'enfant, s'il est bien disposé et que l'école s'harmonise avec la vie sociale et la vie globale de l'enfant, l'enfant sera dans une bonne situation d'apprentissage. Donc, à la fin, c'est moins d'échecs, c'est plus de réussite aussi. Donc, c'est vrai que d'associer... Ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop dans notre culture, enfin, alors que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs, c'est compliqué de travailler avec les autres. Hein. À partir du moment où on doit coordonner, c'est souvent dit oui, c'est de la réunionite, c'est du temps perdu, tout ça, mais en même temps, ça nous semble nécessaire aujourd'hui qu'il y ait d'autres partenaires. Alors, par exemple, sur l'école de Badarou, vous avez pensé à des partenariats particuliers ou comment vous allez organiser ce temps périscolaire ?
Plus la mairie, mais d'ores et déjà. Ben là, à l'heure où je parle, il y a les contrats éducatifs locaux qui sont mis en place et qui interviennent par exemple déjà dans notre école. Donc là, actuellement, j'ai des élèves qui sont en train de faire du volet. Hein. Donc, mais c'est vrai que sur ce temps méridien, vu qu'on finit à midi et qu'on reprend à 1h30, chez nous, c'est toujours un peu la course. Donc c'est cette activité, elle est super, sauf que ça stresse nos élèves quand même. Donc, alors que là, on pourra sûrement la déplacer de 15h30 à 16h30. Ça, c'est à la mairie de voir avec la communauté de communes. Mais tous ces contrats éducatifs locaux vont pouvoir être déplacés et mis en service dans un peu plus tranquillement, on va dire, et de façon à ce que ça porte vraiment ses fruits.
Hein. Et peut-être aussi avoir une offre un peu plus large qui serait au-delà de ce qui se fait actuellement dans le cadre du CEL, et on se félicite que ça existe. C'est peut-être d'avoir aussi d'autres offres avec d'autres associations.
Tout à fait.
Et de faire en sorte que les forces vives qui traînent autour de l'école, qui sont aussi des parents d'élèves très très souvent, puissent intégrer l'école dans un cadre très spécifique qui n'est pas celui du temps de la scolarisation, mais qui est un temps d'accompagnement et qui peut aussi vous aider dans le cadre, je pensais, à vos projets d'école.
Oui, tout à fait. Et déjà, je pense que l'association, on a une association qui fait de la gym au niveau de Badarou, a déjà pris contact avec la mairie justement pour effectivement intervenir pendant ce temps-là. Et le maire est apparemment ouvert à rencontrer toutes les personnes qui peuvent apporter un plus pour gérer ces activités périéducatives.
Alors l'école de Badarou, la ville de Badarou qui met en place cette réforme dès 2013, à contrario, à Saint-Enemy, on a repoussé d'un an, Monsieur Gaudry, pourquoi?
On a repoussé d'un an, comme beaucoup de nos collègues. Hein. En fait, il n'y a que 4 écoles en Lozère qui ont... Comment? 4 communes, oui. 4 communes en Lozère qui... Oui, parce que Mende a plusieurs communes, oui. À plusieurs écoles, oui. Non, l'impossible. Parce que ce qu'on veut dans cette réforme... après l'avoir regardé, c'est réussir. Et actuellement, que ce soit à Saint-Enemy ou mes autres collègues maires, ce qu'ils veulent, c'est réussir aussi cette réforme. Et on ne peut pas, nous, là, on est au mois de mai, effectivement, on est, là, j'ai provoqué un conseil d'école pour préparer, pas la rentrée 2013-2014, mais pour préparer la 2014-2015. On commence déjà à voir comment on allait pouvoir, parce qu'il faut l'approprier, ce projet. On ne peut pas balancer des projets comme ça sans se les approprier. Et si on veut se les approprier, il faut que les enseignants se l'approprient, ce qui n'a pas... Ça tiraillait un peu quand même. Il faut que les parents d'élèves se l'approprient, il faut que la mairie se l'approprie, la communauté de communes se l'approprie.
Et qu'elle trouve les moyens de ça aussi.
Comment ?
Et qu'elle trouve les moyens, peut-être.
Et qu'elle trouve les moyens. Puis il y a des choses encore où j'ai pas la réponse, savoir même sur des histoires de compétences, hein, où j'ai pas la réponse entre communes et communauté de communes, parce qu'il y a beaucoup de... Mais bon, c'est le secrétaire
général. Mais ça sera peut-être un autre débat à avoir sur la
prochaine. Ça sera un autre débat. Peut-être. Sauf que, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est la réussir, cette réforme. Et donc, après, il faut trouver aussi les partenaires. Donc on en a tous, hein, on a sur le coin, on a une association qui s'appelle Les Petits Cailloux, qui font très bien leur boulot, on a des clubs, des associations sportives. Et après, faut qu'on le mette. Il y a plein de problèmes qui se posent, où les enseignants se sont... Parce qu'il faut mutualiser les locaux, ça paraît pas, mais ça veut dire qu'il faut conventionner. Hein. L'institut, ça veut dire que si elle n'est pas dans le périscolaire, dans l'activité, ça veut dire que quand elle a fini ses cours, il faut s'en aller à côté. On ne peut pas faire sans ça que là. Et puis on va ramener d'autres choses. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire, qu'il faut que les gens s'approprient, parce que on l'a très bien dit autour de cette table, c'est un grand changement. Et nous, un grand changement, on est incapable de le balancer comme ça
en 6 mois.
En l'imposant.
On a compris, c'est trop rapide, ça arrive trop vite, c'est trop tôt, mais on pourrait pas faire un essai comme à Badarou et justement pour l'année d'après se dire tiens, ça, ça a bien marché, on le continue, on revient
dessus. Mais vous savez, on va regarder hein, ce qui se fait, ce qui se fait à Badarou, ce qui se fait à Ispagnac, hein, puisque nous, on dépend même avec le même centre de loisirs que Saint-Enemy. Donc on va regarder, mais on va pas faire que de regarder. On va aussi l'adapter à notre fonctionnement d'école et de commune. Alors la difficulté aussi, c'est parce que quand vous parliez des communes, il va y avoir le problème des cantines du mercredi. Donc tout ça, il faut qu'on en discute. Il va y avoir le problème d'harmoniser les transports qui vont être un peu autrement. Il y a des problèmes de responsabilité aussi. Parce que maintenant, la commune, elle était du départ de la descente de l'autobus, du ramassage, jusqu'à la remontée du ramassage. Maintenant, s'il y a du périscolaire qui... Alors tout ça, c'est pas des blocages qu'on fait. C'est justement qu'on veut que ça soit bien clair.
Alors, madame la directrice académique n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire, madame Lombardi-Pasquier.
Je ne suis pas complètement d'accord. Enfin, bon, disons que la posture, parce que j'ai échangé avec des maires mettant en place en 2013, et c'est vrai que ça veut dire qu'à ce moment-là, ils se sont dit on y va et on va trouver les solutions au fur et à mesure. Et de ce point de vue-là, j'entends bien, Monsieur Gaudry, ce que vous dites, que ce soit sur l'organisation, sur les ressources, que ce soit sur les champs de compétences. Mais ces réponses, on les a trouvées au fur et à mesure. Donc, La loi, le décret, c'était le 24 janvier, donc ça n'est pas, je comprendrais si on nous dit au mois de mai, il faut changer les rythmes pour septembre prochain, que ça fasse trop juste, mais c'était quand même le 24 janvier, et elle avait été annoncée en amont. Donc il est clair que les maires qui ont décidé d'aller d'aide 2013 ont fait ce choix et ont commencé à nouer le dialogue avec, bien entendu, les enseignants, et quelquefois les ont persuadés, aussi, et puis aussi avec les partenaires. Et de ce point de vue-là, en ce qui concerne en effet l'évolution des projets éducatifs territoriaux prenant assise sur actuellement les contrats éducatifs locaux, il faut aussi noter l'action importante de nos partenaires et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Monsieur le préfet également a réuni les maires des différentes communes qui sont en CEL, puisque dans le département, nous avions la chance d'avoir beaucoup de communes du département en contrats éducatifs locaux, déjà, ce qui était une première 17, ressource.
14 communautés de communes.
Il y a 14 communautés de communes qui ont inscrit... D'accord, c'est que des communautés de communes.
Le dispositif CEL, donc, depuis 1998, en fait.
Alors, il est vrai que pour le département, donc vous le disiez tout à l'heure, 4 communes seulement, donc on peut les rappeler, partent en 2013, Mende, Badarou, Vialas et Ispagnac. Voilà. Vialas faisant partie maintenant de la communauté de communes de Génolac, qui met en place les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Donc ça correspond à 863 élèves pour le département, 18% des élèves du département. On pourrait se dire, c'est un peu décevant au vu du national.
Est-ce que dans le cadre justement des départements ruraux comme le nôtre, est-ce que la bonne dimension aujourd'hui, c'est pas alors comme l'ont fait les enseignants de se remettre en question sur leurs pratiques, sur les modalités, est-ce que la bonne dimension aujourd'hui de la scolarisation et de la gestion de cet ensemble scolaire pour certains villages, ce ne serait pas l'intercommunalité avec ses champs de compétences et ses moyens, puisque si on analyse un peu ce qui s'est fait un petit peu en France. On n'a pas hésité à mettre des moyens financiers, notamment dans le ramassage des ordures ménagères. Sur la ville de Mende, le maire me confiait que c'était plus d'1 million d'euros par an. Donc, pour ce qui concerne de ramasser nos ordures, il n'y a pas de problème, on peut mettre de l'argent. Par contre, on est en train de faire une refondation de l'école, une réforme des rythmes scolaires, et on se dit qu'on est 30% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Sur les moyens qu'on alloue, alors pas ce que l'État alloue avec le personnel éducation nationale, ce que les collectivités allouent, et est-ce qu'il n'y a pas justement là à redéfinir et à réimpliquer l'école de la République et les collectivités en leur disant, écoutez, vous n'avez pas les moyens dans votre situation actuelle parce que votre commune est trop petite, regroupez-vous en intercommunalité, trouvez les moyens de ces politiques et faites ce que vous avez fait pour les ordures ménagères, pour le transport scolaire, pour tout ce que vous avez mis dans l'intercommunalité. Alors certes, François le disait, c'est vrai qu'il y a une perte d'appropriation de tout ça, peut-être, mais qu'il y a peut-être une redéfinition de ces champs, parce qu'on n'est pas sur des choux ou sur du papier à lettres ou sur des choses comme ça. On est sur des petits hommes qui vont devenir des concitoyens, qui vont gérer nos collectivités, c'est-à-dire qui remplaceront François Gaudry, puisqu'il est là, c'est le seul élu présent, et plus tard, dans quelques décennies, enfin, en tout cas, je souhaite, et puis qui seront aussi en charge de responsabilités que vous avez, madame la directrice. En charge de ce que vous faites, vous, dans votre école en tant que directrice, est-ce que ce n'est pas le moment opportun pour redonner les moyens à l'école de la République de retrouver sa place et ses résultats ?
Non, d'accord. Moi, j'entends bien tout ça. Alors, je suis bien d'accord. Je veux dire que chacun a son rythme. Il y en a qui démarrent en 2013. Mais il y a quand même... Pourquoi on prend le temps ici ? Parce qu'on parle d'égalité. Moi, je veux bien. Sauf que toutes ces activités, actuellement, même s'ils sont faits par les SEL, les centres éducatifs locaux. C'est-à-dire, c'est quand même des activités qui souvent sont payantes. Donc, est-ce que, à part tout ça, ça reste nous, et moi, je suis pour l'égalité, la gratuité, mais comment on va la gérer ? Il faudrait le dire aussi, ça. Je ne sais pas comment, par exemple, à Badarou et Ispagnac, c'est pour ça, tout à l'heure, ce n'était pas du tout mesquin de dire on va observer Ispagnac, on va observer Badarou. Comment ils s'y prennent par rapport aux activités, par rapport au point de vue financier. Est-ce que les parents vont payer les activités ou pas ? Ben oui, parce que ce n'est pas des activités obligatoires. Je veux dire, jusqu'à maintenant, le seul chose qui va être obligatoire, ça va rester comme c'est actuellement, c'est-à-dire qu'à 4 à Imaginons que vous arrêtiez l'école à 4h moins le quart. Si vous habitez dans le quartier ou si la maman ou le papa vient chercher son enfant, il peut partir à 4h moins le quart et ne pas du tout avoir... Voilà. Donc, et l'autre chose que je veux dire, c'est sûr pour les petites communes, ça demande du temps à mettre en place, parce que comme vous l'avez très bien dit, il y a des évolutions à faire, etc. Sauf qu'il ne faudrait pas quand même que ces temps qu'on a dégagés, que ça soit de la garderie. Il faut que ça soit de la qualité, il faut réussir cette réforme. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'interrogations.
Oui, je crois que ça, tout le monde en est conscient.
Et oui, mais alors, au niveau de l'égalité, par rapport aux familles, parce que je veux dire que moi, j'espère que tout sera gratuit. Si c'est gratuit, ça veut dire que ça va être imputé sur un budget quelconque.
C'est ce qu'on disait précédemment, oui. C'est de retrouver une échelle et des moyens financiers pour... peut-être qu'à Badarou...
Nous, à Badarou, oui. Déjà, au niveau de la gratuité, c'est vrai que déjà, au niveau des communes, des fois, vous avez la garderie qui est payante, etc. Dans d'autres écoles, nous, à Badarou, le maire tient à ce que ce soit gratuit. Et il a bien assuré tous les parents, lors de la réunion de concertation qu'on a eue, que les activités périéducatives ne seraient pas payantes, comme actuellement les CEL ne sont pas payants pour les parents et pour tous les enfants qui y participent. L'argument, M. Turc, il avance aussi, c'est qu'il part en 2013 parce qu'il y a une dotation financière et que ça permet aussi...
De 50 euros et de 95 euros pour les écoles.
Qui permet aussi peut-être aussi de voir le budget qu'il faudra pour 2014 et pour pouvoir...
C'est sûr, pour la suite. Là, c'est pour lancer.
Après, moi, je ne suis pas à la mairie, donc je ne peux pas vous dire... C'est sûr que ça représente ça démarche, pas... Mais...
C'est une aide, j'espère qu'elle ne sera pas ponctuelle, mais qui ne couvre pas, mais ce qui est normal.
Non, elle ne couvre pas. Après, lui... Voilà, ce qu'il dit, c'est qu'après, oui, comme vous dites, il faut faire des choix, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on choisit. Si on choisit plus,
de faire une ZAC
de bétonner, de faire des accès. Les moyens des routes, à l'école.
Justement, on est tous d'accord là, mais est-ce qu'il n'y aura pas une inégalité entre territoires, entre une commune qui n'aura pas d'argent et qui obligera les parents à payer les activités ou pas?
C'est pour ça qu'on pense aussi qu'il y a une dimension minimale. On sait bien qu'il y a des communes qui ont des petites écoles et qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce qu'on parlait des dotations, mais ce n'est pas récent, on parle de l'égalité, mais cette équité dont vous parlez aujourd'hui, elle n'existe déjà pas, je veux dire. Si on prend Mende, qui a des éducateurs sportifs, dans plein d'écoles rurales, il n'y a pas d'éducateurs sportifs, il n'y a pas les infrastructures, mais le taux d'imposition sur Mende n'est pas le même qu'à Badarou, ni qu'à Saint-Étienne du Val-d'Aunès, ni qu'à Genolac. Attention, hein. C'est-à-dire qu'aussi, on ne peut pas prétendre avoir une équité si on, face à l'impôt, n'est pas équitable non plus. Donc il y a un moment donné, peut-être, un regroupement et des dimensions à retrouver, mais c'est vrai, c'est vrai dans le secteur de l'éducation, mais c'est vrai dans le secteur de l'économie. Je veux dire, ça se fait naturellement et d'une manière générale. On ne peut pas gérer sur son propre village les ordures ménagères. C'est bien pour ça qu'on l'a fait au niveau intercommunal. Et donc, si on trouve les moyens, c'est vrai qu'il faut repenser l'école autrement. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de réfléchir, mais de façon concertée, certes, de remettre des moyens, de réaffirmer l'école dans les collectivités, parce que l'école, c'est plus que le rôle éducatif, c'est le poumon d'une micro-société qui est un village. Et donc, il faut penser... Bon, François,
on l'entend bien, que ce soit à Saint-Enimi, dès qu'on a pu, on a monté la micro-crèche, l'école, le collège, le centre de loisirs, tout ça, parce que ça fait un ensemble. Hein, je veux dire, si on s'est bagarré autant pour le collège, c'est pas pour les beaux yeux du maire de Saint-Enimi. Hein, c'était bien parce que ça correspond...
Quoique, les beaux yeux, ce maire...
c'était bien parce que ça correspond à quelque chose, quoi. Je veux dire, qui permet aux gens de pouvoir suivre un cursus et pouvoir avoir une qualité de vie et une qualité justement environnementale.
D'accord. Peut-être Martine.
Oui, je voulais un petit peu revenir sur ces temps libérés et notamment rappeler que le mercredi matin qui est maintenant sera travaillé, donc les associations d'éducation populaire qui... prenez en charge les enfants à la journée, donc le mercredi matin, celles-ci, il va falloir un peu les réintégrer lorsqu'il y aura un projet éducatif territorial. Parce que je pense que c'est absolument nécessaire, déjà, parce qu'ils vont perdre des emplois, puisqu'ils ne travailleront plus que le mercredi après-midi en termes d'accueil des enfants.
Alors, donc la DDCSPP... Là, tu parles sur, le, sur l'ensemble des centres d'accueil de loisirs,
oui. Hein,
des ALSH.
Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Hein, que ce soit sur Mende,
il y a, oui, sur Ispagnac, sur un peu partout, bien sûr. Hein.
Accueil de loisirs, ils ne travailleront plus le mercredi matin. D'accord ? Donc, effectivement, ça va avoir une incidence sur l'emploi. Et il serait peut-être intéressant de réfléchir à comment réintégrer ces, ces accueils de loisirs dans le cadre des temps libérés, soit en accueil de loisirs associé à l'école, ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait, à mon avis, on est tous autour d'un objectif principal, la réussite éducative, que ce soit par les fondamentaux ou que ce soit par les autres activités possibles auprès des enfants. Donc, il faut trouver une solution, quoi. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit de la pure garderie, comme disait François Gaudry, mais il faut vraiment bâtir quelque chose de qualité. Alors, donc, juste ouais. Un petit mot de plus pour Badarou, puisque Badarou, donc, avec les activités CEL, avait des activités en temps méridien, comme vous l'avez dit, qui sont un peu stressantes, mais c'était, et sûrement d'aussi, donc, qui ont été placés dans ces temps-là, puisque c'était issu des conclusions du diagnostic de départ sur ces temps méridiens qu'il fallait réaménager. Donc là, vous n'allez plus les réaménager. Donc voilà, je me pose la question.
D'accord. Merci, Martine. Peut-être pour, avant de conclure donc, avec Madame la directrice des services académiques de l'Éducation nationale, simplement rappeler à nos auditeurs que il y a bien évidemment un projet éducatif territorial avec les partenaires qui sont associés dont tu parlais, c'est-à-dire les partenaires associés à l'école, la collectivité qui est maître d'œuvre de ça, mais en même temps les services de la jeunesse et des sports, il y a aussi les mouvements d'éducation populaire, il y a un bon nombre de personnes. Alors tout ça, ça va donner lieu à un projet global qui va s'inscrire sur un territoire, c'est de définir aussi la bonne dimension de ce territoire. On verra dans une prochaine émission thématique aussi sur un spécial éducation sur le rythme scolaire. Et là, on rentrera plus spécifiquement sur les propositions qui seront faites sur les quatre collectivités. Donc, ce sera à suivre dans vos communes et puis à la radio, de voir comment ça va être mis en œuvre. Donc ça, on vous propose de faire une prochaine émission, fin juin, je pense, aux alentours de la fête de la musique, pour arriver un petit peu à dresser un petit peu un tableau de ce qui va être mis en place dès la rentrée de septembre. Et puis, on fera aussi une autre émission, toujours sur les rythmes scolaires, faire une émission un petit peu d'évaluation de la rentrée du premier trimestre 2013-2014, juste avant Noël, pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est fait, comment ça fonctionne, les dysfonctionnements, tout ça. Donc, on est amené à se revoir, voilà, à en reparler, parce qu'on pourrait faire des émissions très longues sur ça, mais bon, voilà, ce petit moment va s'arrêter. On va donner la parole donc à Madame la directrice pour le mot de la fin.
Bien, merci. En effet, là, nous sommes à la croisée des chemins en ce qui concerne la mise en œuvre des rythmes pour la rentrée prochaine. Donc, le 17 mai, les maires des communes qui partent en 2013 sur les nouveaux rythmes doivent me proposer l'organisation du temps scolaire. Donc, on y verra un peu plus clair, entre guillemets. Pour le 31 mai, nous leur avons demandé le projet éducatif territorial. Donc, que nous pourrons examiner avec la DDCSPP. Ensuite, n'oublions pas en effet que cette mise en place des nouveaux rythmes scolaires, vous le disiez au début, c'est dans le cadre de la loi de la refondation de l'école et qu'il y a une dynamique interne à l'éducation nationale mais ouverte aux partenaires qui se met en place. Et le ministre nous a demandé de mettre en place dans chaque département un conseil départemental de suivi des rythmes scolaires que nous avons déjà réunis une fois. Nous allons les réunir fin juin. Donc il y a bien entendu les acteurs de l'éducation nationale, inspecteurs, représentants des personnels, mais également des représentants des collectivités, des associations, la DDCSPP, la CAF également, qui sera certainement en partie financeur. Donc, toujours est-il que nous allons suivre cette mise en place des rythmes scolaires toute l'année 2013-2014 pour, en effet, pouvoir accompagner les communes qui partiront toutes, elles, à la rentrée 2014.
D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à tous. Donc, rendez-vous fin juin pour faire un petit peu le point sur cette réforme et ce qui va être mis en œuvre sur les départements. Merci à nos participants. Ludo, peut-être pour conclure
sur les
le rendez-vous.
Oui, par rapport au rendez-vous sur nos ondes, à savoir ce soir à 18h10, le Cercle des journalistes de la Lozère, qui a fait un magazine hier en direct de l'IUP, demande concernant Lozère 2020 par le Conseil Général. Demain, même heure, 18h11, toujours le Cercle des journalistes de la Lozère, qui a fait un reportage sur la Mostra en suivant deux artistes dans les rues de Mende. Par rapport aux vitrines qui sont exposées. Jeudi 18h10, c'est bien sûr la rediffusion de cette émission. Et vendredi, Carnet de Région, le magazine d'actualité régionale. Et ce soir, exceptionnellement, Traigo Salsa, qu'on n'a pas pu diffuser hier et qui sera à 20h sur nos ondes.
Merci à tous et à bientôt.
Au revoir. Au revoir.